Bonjour à tous, bienvenue à ce nouvel épisode de La vie symbolique avec Jonathan Pageau et Jean-Philippe Marceau. Aujourd'hui, j'avais envie que Jonathan et moi, on se penche sur deux textes liturgiques qui sont priés assez souvent dans la liturgie des heures. Je pense que c'est vrai en Orient puis en Occident, c'est-à-dire le Magnificat et aussi la prière de Zacharie quand son fils Saint-Jean-Baptiste est né. C'est des prières qu'on prie souvent, justement, chaque jour, mais ça me chicote un peu parce que dans les deux cas, je trouve pas ça facile de me rappeler par cœur de ces prières-là, parce que je pense qu'ils n'ont pas une structure qui est si facile à saisir intuitivement. Donc, les deux sont situés dans le premier chapitre de l'Évangile de Saint-Luc. C'est un long chapitre, donc on ne va pas passer à travers chaque ligne. On va plutôt juste résumer jusqu'à temps qu'on arrive à chacune des prières, puis on va discuter justement de ce qui se passe autour, puis ensuite discuter de la prière en tant que telle. Donc, pour commencer, donc, qu'est-ce qui se passe au début de ce chapitre-là? L'histoire, c'est que Zacharie, qui est un descendant d'Aaron, et sa femme, Élisabeth, qui est aussi une descendante d'Aaron, donc de la caste de prêtres d'Israël, sont pas capables d'avoir d'enfants, sont vieux, Élisabeth est stérile. Puis, cette année-là, c'est le tour de Zacharie d'être le grand prêtre, puis d'aller offrir l'encens au sanctuaire du Seigneur. Donc, il s'en va dans le tabernacle, il va offrir l'encens. Puis, quand il est dans le sanctuaire en train de brûler l'encens, il y a un ange qui lui apparaît, puis qui lui dit que sa prière est exaucée, sa femme va concevoir un fils. Puis là, Zacharie questionne l'ange pour ça étrange, puis l'ange va lui couper la parole. Donc, Zacharie, il reste longtemps, il ressort, il n'est plus capable de parler. Ensuite, qu'est-ce qui va se passer? Effectivement, un peu plus tard, sa femme tombe enceinte, donc Élisabeth est enceinte, elle garde ça secret. Puis, là, ça dit que ça fait... après ça, 6 mois, ça va être l'histoire de la conception de Jésus par Marie, donc l'annonciation qui se produit. L'ange vient voir Marie. Là, il se passe quelque chose de similaire, parce que pour une autre raison, Marie n'est pas censée avoir d'enfant. Il y a des traditions là-dessus, on pourra en parler plus, mais Marie avait fait un vœu de célibat. C'était un truc assez commun à l'époque. Là. La façon dont on dit « je ne connais pas d'homme », c'est pour dire qu'elle avait pas l'intention d'avoir d'enfant. C'était une genre de vierge consacrée. Puis l'ange va, cette fois-ci, va pas lui couper la parole, va lui dire un peu plus qu'est-ce qui va se passer. Puis une fois que Marie est enceinte, là, ça commence à être intéressant parce qu'on s'approche de nos prières. Elle s'en va dans la... Elle s'en va chez sa cousine, voir Élisabeth, qui est donc enceinte de 6 mois. Puis là, il y a déjà un parallèle intéressant que je serais curieux d'avoir si tu as une idée, Jonathan, de qu'est-ce qui se passe là, parce que Marie s'en va passer 3 mois avec Élisabeth. Quand Élisabeth est rendue à son 6e mois, Marie, ses 3 premiers mois. Puis c'est dans la région montagneuse de Judée, qui est le même endroit où l'arche avait reposé chez Obed-Edom, le Guittite. Si tu te rappelles de l'histoire de quand les Juifs avaient tenté d'apporter l'arche jusqu'à Jérusalem sans le faire de la bonne façon, en portant l'arche avec comme les poteaux qu'il fallait, tenus avec les sacs d'or, etc. Il y avait quelqu'un qui était mort en touchant l'arche, puis l'arche était restée dans la contrée de Judée, chez Obed-Edom le Guittite, pendant 3 mois, justement. Fait que même région, puis l'arche était restée 3 mois, comme Marie reste 3 mois chez sa cousine. Puis dans le texte de l'Ancien Testament, ça dit que Obed-Edom, il a été béni par Dieu pendant ces périodes-là. Puis c'était un gentil, je pense que c'était comme proche des Philistins ou un Philistin, quelque chose comme ça. Mais il a été comme béni par Dieu pendant ces moments-là. Puis plus tard, il a été, lui et ses descendants, ils ont été comme intégrés à Israël, puis ils ont fait sont devenus des prêtres, là, comme le service du temple. Fait que, je me demandais si tu avais déjà pensé à ça, puis comme remarqué ce parallèle-là, puis disons, pourquoi ça pourrait peut-être être là. À part que peut-être, tu sais, ils veulent faire un lien avec le fait que sûr que c'est Marie qui transporte l'arche, mais c'est 3 mois la contrée de Judée, puis le fait que
est-ce que ça dit dans Luc que Marie est restée là 3 mois?
Ouais.
Tu
C'est quand
vois,
même
c'est
fou.
des choses que j'ai jamais remarquées. C'est vraiment, j'avoue que c'est assez intéressant. C'est intéressant par rapport aussi à il y a des histoires dans la tradition qui font le lien entre Marie puis l'arche dans ce contexte-là. Là. Tu sais, dans la tradition de s'adormition, il y a l'idée qu'il y a quelqu'un qui a essayé de toucher le corps de Marie qui était comme pas chrétien. Puis là, tu sais, ses bras, ses mains ont été coupées par l'archange Michael. Là, tu sais, c'est des termes un peu extrêmes. Là. Mais c'est clairement pour nous montrer le lien entre Marie et l'arche, là, que ces traditions-là y existent pour comme nous faire voir le parallèle que tu as dit. Tu sais, dans le fond, que moi, je n'avais jamais remarqué dans le texte, mais qui est là dans le texte. C'est-à-dire, dans la Bible, il y a un parallèle. Mais des fois, il faut connaître vraiment bien la Bible pour le voir. Fait qu'il y a plein de traditions qui viennent après se rajouter. Puis souvent, ces traditions-là, la façon que elles sont formulées, c'est pour nous faire voir le parallèle. Fait que oui, j'avoue que je trouve ça un peu surprenant, mais en même temps, non, là, ça ne me surprend pas qu'il y ait un lien entre les deux, là.
Puis c'est à ce moment-là que Marie va prononcer le Magnificat. Sa cousine Élisabeth remarque que Jean-Baptiste bouge dans son ventre, comme qu'il reconnaît le Messie, danse comme David avait dansé devant l'arche. Puis Élisabeth comprend qu'est-ce qui se passe, dit à Marie que je peux prendre la citation exacte là. Tu es béni entre toutes les femmes et le fruit de tes entrailles est béni. D'où m'est-il donné que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi? Car lorsque tes paroles de salutation sont parvenues à mes oreilles, l'enfant a tressailli d'allégresse en moi. Heureuse celle qui a cru à l'accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. Donc, Élisabeth dit ça, puis ensuite, Marie va répondre avec le Magnificat. Donc, je vais le lire, puis après, on pourra le commenter, essayer de
Peut-être une chose
comprendre.
de dire qui est important, c'est clairement, en tout cas, moi, ce que je vois, c'est que le texte veut faire le lien entre l'arche puis aussi la Vierge. C'est important de comprendre l'idée de, on pourrait dire, la gloire de Dieu qui est cachée. C'est ça aussi le lien que le texte essaie de faire, parce que, tu sais, par rapport à l'arche de l'Alliance était cachée, mais aussi les choses sacrées étaient cachées à l'intérieur de l'arche. Fait même quand il bougeait l'arche, puis il la couvrait, puis tout ça, tu sais, t'as l'idée que, dans le fond, c'est comme si c'est la gloire de Dieu qui est invisible ou qui est pas visible dans le monde, mais qui rend la gloire de Dieu visible dans la pratique et dans le peuple d'Israël. Fait que ça, c'est peut-être important de comprendre que, dans le fond, quand la Vierge est là, la gloire de Dieu en elle, cachée, tu sais, les gens, ils peuvent pas voir. Elle va dans l'endroit où l'arche a été gardée pendant 3 mois, comme tu dis. Puis là, c'est comme si le prophète, tu sais, qui est caché en Élisabeth, bien, il reconnaît la gloire de Dieu cachée. Là. Ça a tout rapport avec cette idée-là là, de l'idée de Christ Emmanuel ou l'idée du Christ qui est caché dans le monde. Là.
J'ai entendu ça comme commentaire. Je pense que c'est Bishop Barron, le premier que j'ai entendu mentionner ça, mais il voit l'évangile de Luc beaucoup comme une invasion. Parce que ça commence, en fait, si tu lis cet évangile-là au début, ça commence à se situer dans le règne du roi Hérode le Grand. Donc, les pouvoirs de ce monde qui sont comme bien à leur place. Puis, comme tu dis, de l'autre côté, t'as, disons, une invasion divine qui vient se passer, puis ça commence de façon cachée.
Oui, parce qu'aussi, il faut toujours se rappeler que Hérode, souvent, à cause qu'on connaît pas bien l'histoire, on dit, ouais, Hérode, c'est le roi de Judée, tu sais, c'est le roi des Juifs, mais il était pas juif, Hérode, puis il était pas le roi nommé par les Juifs. C'était un genre de roi qui était nommé par les Romains, puis il était un Édomite, c'est-à-dire qu'il était un descendant de Ésaü. T'sais, puis les Édomites, c'est vraiment les ennemis d'Israël, là, t'sais, pendant longtemps. Là, c'est toujours, il y a comme un comble de conflit entre les Édomites puis Israël. Fait que t'sais, l'idée qu'Hérode est le roi, c'est déjà une sorte de perversion de la royauté, la vraie royauté d'Israël, là, qui serait la royauté des descendants de David.
Donc là, peut-être qu'on peut lire le Magnificat
Ouais.
puis le commenter avant d'aller plus loin. Donc, Marie répond à sa cousine, Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur, il s'est penché sur son humble servante, désormais tous les âges me diront bienheureuse, le Puissant fit pour moi des merveilles, saint est son nom, sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent, déployant la force de son bras, il disperse les superbes, il renverse les puissants de leur trône, il élève les humbles. Il comble de biens les affamés, renvoie les riches les mains vides. Il relève Israël, son serviteur. Il se souvient de son amour. de la promesse faite à nos pères en faveur d'Abraham et de sa race à jamais.
Alors, qu'est-ce qui se passe? Mais tu sais, une des choses qui se passe dans cette prière-là, c'est un peu de nous rappeler la structure de base qu'on parle toujours, tu sais, la relation entre le ciel et la terre. Puis la façon de comprendre, une des façons de comprendre la relation entre le ciel et la terre, c'est de comprendre la terre comme étant humble, en fait. Tu sais, qu'on de comprendre la terre comme étant pauvre aussi. De comprendre la terre comme ayant rien en soi, étant vraiment le réceptacle qui reçoit tout d'en haut, qui reçoit tout du ciel. Puis quand tu fais cette relation-là, quand tu présentes cette relation-là de façon appropriée, ça devient une image qui est contre l'image des fausses hiérarchies. C'est contre l'image des idoles, contre l'image de la statue de Nebuchadnezzar, contre les structures qui sont là, mais qui sont une perversion et qui sont fausses. Puis là, on voit dans le fond que la Vierge, elle se place elle-même comme l'arche encore, tu sais, comme la terre, comme celle qui est humble, celle qui est... Elle dit pas ça. Tu sais, elle dit, mais c'est très... Elle se place comme celle qui a rien, en fait, qui mérite pas et tout. Puis là, elle reçoit tout, puis elle reconnaît qu'en recevant du ciel, bien, les structures de ce monde vont être détruites. Puis, c'est important de comprendre, c'est que tu vois qu'il y a comme une cohérence. Et souvent, on trouve ça bizarre. T'sais, c'est quoi? Pourquoi les chrétiens, ils parlent d'humilité? Pourquoi que les chrétiens parlent? Pourquoi qu'on dit qu'on doit s'abaisser? Toutes ces choses-là. Mais c'est vraiment pour recréer la structure dans Genèse 1, pour devenir, on pourrait dire, la terre, ou pour défaire les fausses structures qui sont d'arrogance et tout, pour recevoir la vraie lumière, pour recevoir la vraie relation, là.
Puis, est-ce que toi, il y a quelque chose qui te saute comme aux yeux au niveau de la structure de la prière en tant que telle, disons? Pourquoi c'est organisé comme ça?
C'est-à-dire, ben, la façon que je le vois, c'est exactement le c'est comme si elle reconnaît sa position par rapport à Dieu.
Mm-hmm.
Elle voit le fait que Dieu va détruire. Puis là, après ça, elle dit... elle parle de la mémoire. C'est comme si elle dit Dieu... Elle se rappelle des promesses de Dieu. C'est une bonne façon aussi de le comprendre. C'est comme si Dieu il a promis des choses. Dieu il a promis d'agir d'une certaine façon. Puis une des choses que la terre peut faire, c'est de se rappeler de ce que Dieu a dit, puis se rappeler des promesses de Dieu. C'est ça que Jonas fait... disons, tu sais, dans le fond du poisson, il se rappelle de Dieu, puis en se rappelant de Dieu, c'est comme si ça se reconnecte. Ça dit aussi, quand on se rappelle ce que Dieu a dit, ce que Dieu a promis, c'est on se rappelle aussi que c'est pas nous qu'on va le faire. Ça dit, Dieu va peut-être le faire à travers nous, mais c'est pas nous qu'on va le faire. Fait qu'il y a comme une structure logique de voir et dit, tu sais, mon âme exulte le Seigneur, c'est-à-dire là, je vois ma relation, il a élevé sa pauvre et son humble serviteur. Il va défaire les structures qui sont là, il va défaire les faux rois, les faux trucs. Il va élever tout ce qui est par en bas, puis il va se rappeler de ses promesses.
Mm-hmm.
Il va faire ce qu'il a promis dans le fond. Il dit, elle le dit plusieurs fois, là. Elle parle de... Oui, on sait. À la fin, elle dit, il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères en faveur d'Abraham et sa descendance à jamais.
Mm-hmm. Je comprends plus là. Au début, elle loue Dieu en tant que tel. Ensuite, elle souligne le fait qu'elle est humble. Puis, que ensuite de ça, c'est surtout du renversement. Là. Donc, depuis la force de son bras, il disperse les superbes, renverse les puissants de leur trône, élève les humbles. Puis ensuite la mémoire.
T'sais, tu peux comprendre, parce que là, en plus, on va parler de la relation de Jean-Baptiste et le Christ. T'sais. C'est un peu comme, il faut avoir cet aspect-là pour qu'il y ait un nouveau royaume ou pour que Dieu rétablisse son royaume. Une des choses qu'il doit faire, c'est détruire les idoles. Puis il y a plusieurs vagues de ça, disons, dans la manifestation du Christ. C'est-à-dire, d'un côté, t'as Jean-Baptiste qui vient, puis qui, lui, il est la voix dans le désert. Il est celui qui dit abaissez, détruisez les structures. T'sais, rendez tout plat pour que Dieu puisse passer, pour que Dieu puisse venir. Mais aussi, dans son histoire, c'est pas juste ce qu'il dit, mais ce qu'il fait, c'est que c'est celui qui critique Hérode aussi. T'sais, dans le contexte de ce qu'on disait, là, c'est Jean-Baptiste
c'est vrai,
qui critique la moralité d'Hérode, qui dit qu'Hérode est un roi qui est immoral. Puis après ça, on pourrait dire que ça se répète après quand le christianisme finalement va entrer dans sa gloire. Bien là, c'est la Judée elle-même qui va, c'est le temple lui-même qui va être détruit. T'sais, les choses vont être détruites. Les structures qui sont devenues vides ou qui sont devenues fausses vont être détruites. Puis ça va ouvrir l'espace pour établir un nouveau royaume. Là. Parce
c'est
que, bon. Tu sais, c'est intéressant, tu sais, souvent, tout ça, c'est vraiment, en plus, c'est important d'y penser maintenant, là. Surtout avec toutes les questions à cause de la guerre en Israël, puis toutes les questions, tout le monde se pose des questions par rapport aux Juifs, par rapport à Israël, par rapport à tout. Tu sais, les gens oublient que, tu sais, souvent, il y a un certain narratif qui veut présenter le judaïsme comme la continuité de l'Ancien Testament, puis qui veut présenter le christianisme comme une innovation totale qui fait comme tout changer puis tout refaire. Mais il faut toujours se rappeler que le temple, il a été détruit. C'est-à-dire, il n'y en a plus de judaïsme. S'il n'y a pas de temple, il n'y a pas de judaïsme. Alors, une fois que le temple a été détruit, une fois que toute la structure a été éliminée, là, ben qu'est-ce qu'on fait? T'sais? Il faut qu'il y ait comme une nouvelle connexion avec le ciel et la terre. Il faut qu'il y ait comme un nouveau début qui se présente. Puis là, à ce moment-là, c'est vrai qu'on pourrait dire qu'il y a une compétition de se poser la question, mais c'est quelle qui est la vraie connexion, c'est quelle qui est le vrai renouveau? Est-ce que c'est celle que les Juifs proposent dans le judaïsme rabbinique, puis une sorte de sublimation de la loi de sacrifice vers d'autres pratiques, ou est-ce que c'est l'ère messianique puis le qui a été promis par les prophètes qui commence après la destruction de Jérusalem? Fait que c'est tout ça qu'il faut se rappeler, que tout ce qui est impliqué dans Luc 1, selon moi, c'est toutes ces choses-là.
C'est bon. Peut-être un truc qui a attrapé mon regard, là, puis je me demande s'il y a quelque chose là-dedans. T'sais, une des premières choses que Marie dit, c'est « Désormais, tous les âges me diront bienheureuse. » J'essaie de me rappeler d'autres passages dans le Nouveau Testament, surtout, où quelqu'un dit quelque chose comme ça, puis on dirait, je me rappelle juste de des femmes, mettons, Jésus va dire ça de quelqu'un. Par exemple, quand c'est une autre Marie qui vient verser du parfum sur Jésus au début de la Semaine Sainte, Jésus dit aussi que tout le monde va connaître cette histoire-là dans le futur. Puis j'essaie de me rappeler s'il y a d'autres, je ne suis pas sûr qu'il y a d'autres passages, mais tu sais, est-ce que, je me demande s'il y a un truc avec justement comme l'humilité, puis le fait que là, Jésus, OK, ça, on va s'en rappeler pour toujours.
Oui, peut-être, oui. J'avoue que j'ai jamais pensé, là. C'est sûr que dans le contexte de... C'est sûr que dans le contexte de Marie, c'est assez intéressant, t'sais, aussi t'sais, dans le contexte de se poser la question, c'est quoi le rôle de la Vierge dans le christianisme? T'sais, on voit clairement que... T'sais, comment je peux dire, elle dit elle-même, tous les âges me diront bienheureuse. T'sais. Fait qu'il faut dire bienheureuse. T'sais, il faut le faire. T'sais. Même elle dit que c'est ça qui va arriver. T'sais, il faut se rappeler d'elle comme dans ce contexte-là. C'est dans le contexte du Magnificat. Là.
C'est bon. Je pense que j'ai rien d'autre qui me vient en tête pour ça.
Un des trucs qui est vraiment particulier, puis c'est des trucs qui me frappent quand même, puis ça a rapport avec ce qu'on a dit par rapport au changement qu'il y a après la destruction du temple. Tu sais, il y a quelque chose de vraiment, et dans la prière de Zacharie et dans la prière de la Vierge, le fait que dans les deux prières, c'est comme si elle dit, « Il relève Israël, son serviteur. » Il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères en faveur d'Abraham et sa descendance à jamais. Tu sais, c'est intense, là. C'est intense de penser qu'après ça, après 70 ans plus tard, le temple va être détruit puis que toute la pratique sacrificielle va être éliminée jusqu'à aujourd'hui. Tu sais, c'est assez particulier. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire d'abord quand elle dit « Elle relève Israël et son serviteur », quand elle dit « Elle... » qu'il se rappelle, il se souvient de son amour, de la promesse de nos pères. C'est sûr qu'en tant que chrétien, on n'a pas le choix de penser que... Tu sais, on est comme obligé en lisant ça de penser que c'est à nous que cette promesse-là est faite. Parce que sinon, quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Il faut toujours lire ces textes-là vraiment en se rappelant de ce qui arrive, parce que c'est pas dans un vacuum, là, tu sais.
Ouais, ouais. Ça me rappelle aussi Obed-Edom dont on parlait plus tôt, là, parce que justement, lui, initialement, c'était un gentil, là, c'était pas un juif, mais c'est lui qui s'est fait visiter par l'arche. Puis, ultimement, lui et ses descendants, ils ont fini par servir comme,
ouais,
au temple.
Ça, je savais pas ça. Ils sont devenus des prêtres. Comment ils sont devenus des prêtres s'ils n'étaient pas des Lévites?
Je n'en veux pas de toute l'histoire, là.
Tu relises le texte. Non, je relise. Tu sors des trucs comme... Je suis comme, what? Je ne sais pas du tout.
Parce que, tu sais, j'ai regardé au moins un résumé, tu sais, avant qu'on en reparle, là. Moi, ça, c'est, plus tard, ses descendants ont servi comme Lévites et gardiens des portes au temple.
Ouais, ben, gardien des portes, ça, je pourrais comprendre, mais Lévites, ça, c'est un petit peu intense.
C'est bizarre, ça. Parce que ça devrait être génétique, hein? Ouais.
Mais pas peut-être, génétique, peut-être mais au moins, tu sais, qu'il y a comme il y a une question de descendance, mais tu sais, il faudrait lire le texte.
Ouais. C'est bon. C'est bon. Bon, je pense qu'on peut continuer.
Mais ça a du sens pour toi, tu sais, de voir la prière comme d'avoir cette prière, cette structure-là?
Ben, je pense que oui. On dirait que peut-être pourquoi je trouvais ça difficile à me rappeler avant, c'est que je t'habitue plus à la structure, mettons, comme du Notre Père, là, où, disons, c'est plus, disons, une semence qui grossit. La structure, disons, classique de poser une pyramide, là, puis là, on dirait la prière de Marie, puis la prière de Zacharie, c'est plus une prière de comme destruction, là, pour commencer.
Oui, mais faut le comprendre comme si c'est une prière qui part d'en bas. C'était de la meilleure façon de le comprendre. C'est une prière qui part d'en bas puis qui monte, tandis que Notre Père, ça commence, tu sais, avec une invocation de ce qui est le plus haut, puis là, ça descend tout le long jusqu'à nos tentations, tu sais. On a déjà parlé de cette structure-là, mais là, cette prière-là, c'est une prière qui part de, on dirait qu'il part d'en bas, tu sais, qui parle de, tu sais, Dieu qui a pitié d'elle, qui a pitié des humbles, de son serviteur, puis que là, on dirait, là, après ça, ça veut dire ça, ce que ça veut dire, c'est que tout ce qui est là, les fausses structures vont être détruites, puis finalement, les promesses de Dieu vont être réalisées, tu sais.
Ouais, même si on va être comme plus dans le détail, peut-être ce que je trouvais moins évident, c'est que ça saute un peu. Si on y va comme plus ligne par ligne, là, mettons, mon âme exalte le Seigneur, exalte mon esprit en Dieu, mon sauveur. Enfin, ouais, comme tu dis, ça part du bas, là, comme Marie, comme... Après ça, il s'est penché sur son ombre le servant. Désormais, tous les âges me seront bienheureuses. Le puissant fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Il y a quand même, on dirait, c'est comme si on commence en parlant juste du bas puis du haut, là. On parle juste de l'humilité de Marie puis de Dieu. Ensuite, on va comme enlever ce qui est au milieu.
Il va tout détruire ce qui est au milieu. C'est ça.
Ouais.
Il disperse les superbes, il renverse les puissants de leur trône. Après ça, il élève les humbles. Il comble de bien les affamés. Ça, c'est beau parce que ça, c'est vraiment... Ça, dans le fond, c'est comme si il élève à partir de la terre, à partir de ce qui est bas. C'est comme s'il élève un nouveau monde, là, une nouvelle vie. Là.
OK, ouais, fait que je pense que ça fait vraiment du sens comme structure. Fait que, ça commence avec, disons, l'humilité de Marie, puis Dieu qui est en haut complètement. Puis ensuite, Dieu, ce qu'il fait, c'est qu'il enlève les choses au milieu, puis il remet une nouvelle hiérarchie. Donc,
à partir des humbles, à partir de ce qui est en bas. C'est comme s'il fait une nouvelle terre, puis des nouveaux. Tu sais, une nouvelle terre, là, à partir du ciel. Il fait comme défaire la terre qui est là, puis là, il refait le monde. Là.
Ouais. Puis t'as presque l'idée que, disons, la destruction vient d'en haut, puis. La nouvelle hiérarchie vient d'en bas, là, où déploie la force de son bras, il disperse les superbes, là, comme ça. Détruit la hiérarchie, puis il élève les humbles.
Ouais. Ça, puis peut-être que aussi, tu sais, je me dis, est-ce que quand ça dit il relève Israël, son serviteur, tu sais, il y a quelque chose aussi dans ça, c'est-à-dire Israël, c'est son serviteur, là.
Mm-hmm.
Tu sais, c'est Israël.
Ouais, ouais.
C'est pas juste un truc, c'est pas juste une. C'est une fonction, là, c'est-à-dire c'est le serviteur de Dieu.
Mm-hmm. Ouais. Non, mais c'est bon. Mais ça m'aide beaucoup. Je pense que je vais m'en rappeler beaucoup mieux, là, maintenant que je comprends ça. Je vais être plus attentif s'il y a d'autres prières de ce genre-là. Ben justement, la prière de Zacharie, ça va être un exemple. Mais ça, on peut continuer. Donc, ça dit dans le texte, Marie restait avec Élisabeth environ 3 mois, puis elle s'en retourna chez elle, comme on avait mentionné. Puis ensuite, Élisabeth accouche. Il y a la circoncision le 8e jour de Saint-Jean-Baptiste, puis c'est là que Zacharie va retrouver la parole. Initialement, les gens pensaient appeler Jean-Zacharie, parce que c'était le nom de son père. Élisabeth dit non, il va s'appeler Jean. Là, il faut que Zacharie écrive que ça va être effectivement ça, le vrai nom, parce que les gens étaient surpris. Puis, en faisant ça, Zacharie va retrouver la parole, puis il va dire sa prière qu'on prie aussi à chaque jour. D'ailleurs, au niveau on reparlera au pire du timing plus tard, là, mais il y a des moments dans la liturgie des heures spécifiques où on prie ça, là, d'habitude, de notre côté. Fait que il y a peut-être une raison, là, on verra. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, qui visite et rachète son peuple. Il a fait surgir la force qui nous sauve dans la maison de David, son serviteur, comme il l'avait dit par la bouche des saints, par ses prophètes depuis les temps anciens, celui qui nous arrache à l'ennemi, à la main de tous nos oppresseurs, amour qu'il montre envers nos pères, mémoire de son alliance sainte, serment juré à notre père Abraham de nous rendre sans crainte, afin que, délivrés de la main des ennemis, nous le servions dans la justice et la sainteté en sa présence tout au long de nos jours. Toi aussi, petit enfant, seras appelé prophète du Très-Haut, tu marcheras devant à la face du Seigneur et tu prépareras ses chemins, pour donner à son peuple de connaître le salut par la rémission de ses péchés, grâce à la tendresse, à l'amour de notre Dieu, car nous visite l'astre d'en haut, pour illuminer ceux qui habitent les ténèbres et l'ombre de la mort, pour conduire nos pas au chemin de la paix. Donc, est-ce que c'est la même structure que l'autre?
Ben, je pense pas, mais tu sais.
Parce qu'il n'y a pas vraiment l'idée d'humilité autant, hein?
Ben, non, non, parce que là, là, c'est plus l'idée, c'est plus une prière royale, là. C'est plus l'idée d'un roi qui va nous délivrer des oppresseurs puis de nos ennemis, tandis que dans la prière de Marie, c'est plus. T'sais, c'est plus Dieu qui va faire, qui va humilier les gens, qui va humilier les arrogants et tout, puis qui va élever comme un nouveau monde à partir des pauvres puis des humbles. Mais ici, c'est vraiment plus comme l'idée que Dieu, il va nous délivrer de nos ennemis, là, puis qu'il va mettre un nouveau roi, t'sais, puis que que Jean, lui, il va être un prophète pour ça, là. Mais ça aussi, tu sais, je veux dire, ça aussi, c'est vraiment particulier, là, tu sais, c'est vraiment particulier de penser, parce que, tu sais, dans le texte de l'Évangile, c'est présenté comme si, dans le fond, c'est ça que le Christ fait. Tu sais, fait que là, tu pourrais dire, OK, dans le fond, tu sais, ce qui est suggéré, c'est que, dans le fond, il y a le roi, un nouveau roi qui arrive, puis là, il va nous délivrer de nos ennemis, tu sais.
Mm-hmm.
Puis là, Jésus, lui, il fait ça, mais pas de la façon dont il pense. Il nous délivre de nos ennemis comme nous délivre du péché. Il nous délivre de nos ennemis dans ce sens-là. Mais tu sais, Jésus, il ne délivre pas des Romains. Là.
C'est fou, hein? Ça va être quasiment le contraire, en fait. T'sais. Ultimement, c'est surtout Rome qui va devenir chrétienne, là, plus qu'Israël même.
Ah oui. Oui, c'est pour ça que c'est assez particulier, tu sais, comme quand tu le lis, tu sais, puis là, tu dis, tu sais, il y en a plusieurs parties qui sont vraiment bien, tu sais, mais c'est surtout, mais tu sais, dans le fond, c'est ça, c'est même moi, je vois que je suis comme infecté, tu sais, par certaines formes de pensées, tu sais, parce que, dans le fond, tu sais, c'est comme si, en tant que chrétien, c'est pas compliqué. On croit que les promesses que Dieu a faites à Abraham, elles se sont manifestées.
Mm-hmm.
Et que dans le fond, Abraham allait être le père de toutes les nations. T'sais, qu'Abraham allait être le père de t'sais, qu'il allait devenir un père pour tous, là, dans le sens que son influence allait s'étendre sur toutes les nations, que l'Esprit allait descendre sur toutes les nations. Tu sais, tu vois, dans la progression des prophéties dans l'Ancien Testament, tu vois que c'est ça qui est suggéré, là, c'est que c'est, ah, okay, c'est pas juste Israël, en fait, il y a comme une idée que ça va aller partout, tu sais. Mais c'est quand même particulier de lire ça. Tu sais, quand tu lis, tu sais comme, ah, ouais, c'est intéressant.
Puis, est-ce que tu vois une logique à la structure globale de la prière? Tu sais, tantôt, je suis vraiment content que pour le Magnifique, on a réussi à trouver une structure, je pense, qui fait beaucoup de sens puis qui va aider à mémoriser ensuite, là. Mais c'est quoi le fil ici?
Bien, ici, c'est vraiment plus l'idée que Dieu va envoyer un sauveur, tu sais, qui va sauver les gens de nos ennemis, ça, c'est clair. Puis qui va nous guider vers la justice, la sainteté. Il parle aussi de le chemin de la paix. Puis qui dit, puis qui fait, il fait comme une sorte de prophétie par rapport à son temps, à son enfant. Il dit aussi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut, tu marcheras devant à la face du Seigneur et tu prépareras ses chemins. Puis aussi, il prophétise qu'en fait, Jean-Baptiste, il va apporter la rémission des péchés, là, tu sais, qu'il va amener, il va apporter la, la constitution, puis finalement, ce que tu sais, le baptême, là, c'est ça que Jean-Baptiste il offre comme un rituel de confession des péchés, là, puis de restauration. Mais tu sais, c'est pas aussi évident, là, honnêtement. Là. Mais aussi parce que tu m'as surpris ce matin en voler ce truc-là qui est comme pas un des trucs que je connais le plus. Fait que tu sais, y penser, là, on est un peu pris dépourvu.
C'est bon,
ça. Moi, je la connais moins. T'sais, la prière de Magnificat, c'est comme une prière qu'on connaît bien. Là, parce que, mais c'est la prière de Zacharie.
Bon, ça, je pense que ça dépend des. Je sais pas si dans quels offices que c'est fait de votre côté, là, mais mettons, nous, je me demande s'il y a de quoi avec le timing, là, surtout maintenant qu'on en a parlé, mais d'habitude, le Magnificat, on le prie dans les Vêpres, puis la prière de Zacharie, c'est dans les Lourdes. Comme on vers la fin des Lourdes, on chante ça. Fait que c'est comme. En fait, je ne suis pas complètement certain, mettons. Disons, pourquoi est-ce qu'on ferait le Magnificat quand le soleil se couche, comme la journée. Une journée termine, la prochaine journée commence, mais là, on prie le Magnificat. Puis ensuite, le lendemain matin, quand le soleil se relève, on prie les Lourdes avec. Avec la prière de Zacharie cette fois-ci. Donc,
ouais. Ben, c'est sûr que la prière de Zacharie, elle a quelque chose de plus combattant. Il y a quelque chose de combattant dans la prière. Là.
Mm-hmm.
Et dans la prière de la Vierge, j'ai l'impression un peu comme si c'est Dieu qui fait tout. Là. Nous, on ne fait rien. Mais dans la prière de Zacharie, c'est comme il dit, toi, tu vas participer. Là. Toi, tu vas faire ça.
Ouais, ouais.
Ça, tu vas, puis on dit Dieu, il envoie un sauveur, un roi qui va régner, qui va combattre ses ennemis, puis toi, tu vas être son prophète, tu vas marcher devant. Tandis que la Vierge, c'est vraiment la prière de l'arche, là, c'est vraiment la prière de d'humilité. Là.
Ouais. Ouais, ouais.
Il y a peut-être ça aussi pourquoi c'est au lever du soleil, mais tu sais, là, je spécule pas juste un peu, là.
mais c'est pour ça. Au moins, ça fait. C'est sûr que pour commencer la journée, ben, j'imagine les deux, en fait, pourraient marcher aussi, mais c'est sûr que c'est une façon, disons, active de commencer la journée, là, de prier la prière de Zacharie. L'humilité de Marie serait pas mauvaise non plus, là. Falloir y penser plus, mais disons, si j'essaie de revenir à la structure, là, disons, d'essayer de comprendre. Donc, du mieux qu'on peut résumer la structure qu'il y a dans la prière de Zacharie, c'est. Il commence quand même par dire béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, avec la connexion en haut qui visite et rachète son peuple. Puis après ça, c'est l'histoire de la visite et justement le rachètement du peuple, là, la lignée, fait surgir la force qui nous sauve. Connexion aux anciens, comme il avait dit par la bouche des saints, des prophètes, etc. Nous arrache à l'ennemi, la main de nos oppresseurs, fait que la frère royale, comme tu avais mentionné. Puis à la fin, pour qu'on le serve dans la justice et la sainteté en sa présence tout au long de nos jours. Fait que quand même pour rétablir une hiérarchie. Là. Il y a ça qui me fait penser quand même au Magnificat, où tu as cette lignée-là royale de détruire une hiérarchie puis d'en installer une nouvelle, là, pour qu'on soit des serviteurs comme Marie, en fait.
Oui, ça, mais dans celle-là, tu as vraiment plus l'impression que c'est comme vraiment la restauration de la ligne de David là, qui est importante. Parce que c'est comme tu disais, on a un faux roi, Hérode, c'est un faux roi, puis là, on va avoir un vrai roi qui va prendre sa place. Là.
C'est bon. Puis ça, puis à la toute fin, ben, c'est spécifiquement les prophéties sur Saint Jean-Baptiste.
OK, ouais, c'est bon. Intéressant parce que tu sais, dans les évangiles, t'as comme un peu, t'as pas juste la suggestion que le Christ remplace Hérode, mais aussi que le Christ il va remplacer César Auguste là, tu sais, parce que tu sais César Auguste, son fils, il était appelé le fils de Dieu, tu sais. D'ailleurs, tu sais, c'est ça dans les Anéides, il y a comme la prophétie supposément là, tu sais, que le fils de Dieu, le fils de l'empereur qui va mourir, tu sais. Puis les chrétiens, ils ont pris ça comme une sorte de prophétie secrète qui était reliée à Jésus dans le fond. Fait que tu sais, les premiers chrétiens, ils constataient que il y avait un étrange changement qui venait d'arriver, parce qu'il faut pas oublier que César Auguste, c'était le premier empereur qui était déclaré un dieu de son vivant. C'est-à-dire, Jules César, ben, de toute façon, c'est le premier empereur. Là. Jules César, lui, avait été défié après sa mort. Puis là, César Auguste, il était le premier vraiment empereur. Puis il a été défié pendant sa vie. C'est-à-dire, il y avait des prières à l'empereur qui étaient faites pendant qu'il était vivant. Fait que, tout ça, c'est vraiment fascinant de comprendre qu'en fait, le Christ qui est aussi divin, qui est le fils de Dieu, qui va remplacer César Auguste, qui va remplacer Hérode, mais pas du tout dans la façon dont tu aurais pensé quand tu t'imagines ce que ça veut dire à prime abord. T'sais. Mais clairement, les premiers chrétiens pensaient ça. T'sais, quand saint Paul, il parle du Christ, puis là, il dit, secrètement, vous le voyez pas, là, mais secrètement, le Christ est en train de mettre toutes les dominations sous lui, toutes les principautés, il est en train de les subjuguer. Vous vous rendez pas compte, mais vous allez voir les fruits de ça bientôt. T'sais. Puis là, 300 ans plus tard, on voit les fruits. On voit qu'en effet, le Christ il a remplacé César, le Christ il a remplacé les rois. C'est juste que le processus par lequel il l'a fait, c'était pas dû, absolument pas celui dont on pensait. Fait que quand tu vois la prière de Zacharie et la prière de Marie, tu vois que oui, ce que Zacharie dit, c'est totalement vrai. C'est juste que l'horizon sur lequel c'est vrai, on dirait que ça rend ça encore plus impressionnant parce que les chrétiens qui ont écrit ce texte-là, eux, ils n'ont pas vu ça.
Mm-hmm.
Ils n'ont vu rien des choses qui sont écrites là. C'est pour ça, tu sais, quand les gens disent, dans le fond, les chrétiens s'attendaient à ce que le Christ revienne dans leur vie, puis que, tu sais, il y en a beaucoup qui disent ça, c'est une preuve que le christianisme n'est pas vrai, là, parce que, tu sais, il n'y a pas eu la résolution des différentes prophéties qui sont faites par rapport au Christ. Mais la réalité, c'est que toutes ces prophéties-là se sont passées. Ça a pris du temps, ça a pris 300 ans, mais ils se sont toutes réalisées. Tu sais, Christ, il a vaincu Rome, Christ, il a restauré Israël de façon universelle, c'est-à-dire la continuité d'Abraham est devenue un truc partout dans le monde. C'est juste que c'est vraiment difficile à comprendre parce que c'est comme un autre processus.
Oui, je me demande s'il y a quelque chose aussi dans la façon dont le chapitre finit, là, parce que on avait mentionné le fait que Zacharie et sa femme, c'est des descendants d'Aaron, donc la famille des Lévites. Puis, justement, Zacharie avait été grand prêtre cette année-là, il était comme disons, au centre de Jérusalem. Puis, saint Jean-Baptiste, lui, ça dit, l'enfant grandissait, son esprit se fortifiait, il alla vivre au désert jusqu'au jour où il se fit connaître en Israël, fait qu'il s'en va, lui, il s'en va exactement comme à l'autre opposé, là. Je ne sais pas comment ses parents réagissaient, là, mais c'est quand, disons, il y avait sa mission de faire repentir Israël. De prime abord, je me suis attendu peut-être que ça lien justement directement avec le système sacrificiel, là, où les Juifs essayaient de se repentir de leurs péchés en faisant des sacrifices, entre autres, mais c'est pas ça que Jean-Baptiste fait, là. Il ne va pas être un prêtre, là. Il s'en va dans le désert, puis...
Oui, bien, tu sais, En tout cas, selon la tradition, la raison, c'est à cause du massacre des innocents. Là. C'est ça qui fait que finalement, Jean-Baptiste se retrouve dans le désert. T'sais, selon la tradition, sa mère, elle a essayé de fuir le massacre, puis elle est morte dans le désert. Puis là, Jean-Baptiste, il a grandi dans le désert. T'sais, c'est sûr que c'est assez fantastique des fois comme tradition, mais ça se peut qu'il y ait un lien au niveau du sens qu'on peut comprendre. Là. C'est-à-dire que t'sais, est-ce que c'est vrai que tous les enfants étaient assez massacrés? Puis là, t'imagines, les enfants des prêtres, les enfants des Lévites et tout, là, ça s'intense comme image. Puis que le fait que Jean-Baptiste, il aille dans le désert pour se faire sauver de ça, c'est lié un peu à Moïse. Là. C'est pas exactement la même structure, mais Moïse aussi, il se retrouve à finalement quitter son peuple puis aller dans le désert en attendant. Là. Fait que c'est ça. Mais c'est vrai que c'est étrange, parce qu'en théorie, Jean-Baptiste aurait dû être un prêtre. Là.
C'est bon. Peut-être, dernière question.
Ça explique peut-être aussi pourquoi que Jean-Baptiste, il était autant admiré et respecté. T'sais, c'est vrai qu'il était le fils d'un des grands prêtres ou un des fils des Lévites. Puis que là, il s'en va vivre comme ça dans le désert et tout. Là, tu sais, c'est clair que ça aurait attiré vraiment de l'attention. Là. Il n'aurait pas été juste. Tu sais, souvent, j'entends souvent des arguments comme ça là, qui disent que, tu sais, il y avait plein d'illuminés dans le désert. De toute façon, tu sais, c'est comme si c'était juste rien. Mais si c'était vraiment le fils d'un des prêtres, puis un qui avait été nommé grand prêtre une année, ça aurait eu vraiment des. Puis là, d'avoir ce personnage-là qui était le fils d'un grand prêtre, qui nomme le Messie, t'sais, c'est pas juste n'importe quoi. T'sais, c'est vraiment un truc qui aurait clairement été attiré de l'attention et que les gens auraient au moins n'aurait pas vu ça comme juste les déclarations d'un fou là, ou les déclarations de n'importe qui. Là. Fait que c'est en méditant sur ça, ça l'aide à comprendre un peu plus l'histoire de Jésus puis de voir pourquoi l'histoire de Jésus a se manifeste de la façon qu'elle se manifeste. Là.
Je me demande s'il y a quelque chose avec la structure globale du chapitre là, où ça commence avec Zacharie et sa femme Élisabeth qui tombe enceinte. Ensuite, ça va être Marie. Après ça, il va y avoir le Magnificat qui va arriver comme avant la prière de Zacharie. Fait, j'ai l'impression que c'est souvent mélangé, disons, dans ce chapitre-là. Disons, on essaie entre les deux histoires, là, l'histoire de Saint-Jean-Baptiste, l'histoire de Jésus. Pas nécessairement dans le... Comme... c'est ça. Le fait qu'on essaie, on dirait, c'est ça qui fait que c'est pas si facile comme de se replacer. Là. Okay. C'est quoi le fil conducteur?
Mais c'est sûr qu'il y a quelque chose, c'est sûr, tu sais, je le comprends pas totalement, mais c'est sûr qu'il y a quelque chose avec le fait que Zacharie perd la parole, puis qu'après ça, on entend les paroles de deux femmes,
mm-hmm.
puis qu'après, c'est quand tout est comme finalisé, puis que, tu sais, il y a comme le on pourrait dire... C'est comme, tu sais, ça fait bizarre de penser ça comme ça, là, mais tu peux imaginer si la Vierge est l'arche, tu sais, puis là, tu sais, la révélation, elle vient de là, là. Fait que c'est comme si le grand prêtre, il est dépendant de ça, tu sais, il est comme dépendant de ce qui vient de là, puis qu'il ne peut pas parler par lui-même, tu sais, c'est pas sa parole, c'est pas sa parole, t'sais, il est censé d'être comme en bas de la révélation, tu sais, qu'il y a comme mm-hmm. une révélation, puis que lui, puis que quand tout est comme fait, tu sais, puis que là, l'arche a montré la gloire, puis que tout, tu sais, c'est comme si un peu la gloire a été démontrée, mais là, lui, il reprend la parole, tu sais, il peut parler. Tu sais, c'est très spéculatif, là, mais c'est intéressant d'y penser quand même.
Ouais, c'est bon. Ben, je pense que ce serait une bonne note sur laquelle finir, là. Ça m'aide beaucoup à comprendre
c'est un peu difficile cette fois-ci, parce que c'était comme... Tu sais, parler de quelque chose que, tu sais, ça fait longtemps. Puis que, tu sais, la prière de Zacharie, je me souviens pas la dernière fois que j'ai médité sur ça. Hein. Je me souvenais même plus encore des éléments. Je me souvenais même pas des éléments dedans.
Non, ça a été un challenge pour Jonathan ce matin. Ben, merci de t'être prêté au jeu. Merci à tout le monde d'avoir été là. Puis on se reverra dans quelques semaines pour le prochain.
Ouais, salut tout le monde.